Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Voici le Mexique. Il y a cet homme, Juan Rulfo, et ce texte. Pedro Páramo. Nous ne traversons plus de ville sans nos morts. Juan Rulfo a écrit cet unique roman. Il a d'abord écrit énormément, puis Elaga, en éliminant chaque jour un certain nombre de pages. Suite à Pedro Páramo, il ne produisit plus. Des spectres se chargent de le perpétuer.
Le village que l'on voit en bas ?
Comala, monsieur.
Vous êtes sûr que c'est bien Comala ?
J'en suis sûr.
Pourquoi a-t-il cet air si triste ?
Les temps sont durs, monsieur.
¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo ?
Comala, señor.
¿Está seguro de que ya es Comala ?
Seguro, señor.
¿Y por qué se ve esto tan triste ?
Son los tiempos, señor.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.
Je suis venu à Comala parce que j'ai appris que mon père, un certain Pedro Páramo, y vivait.
Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera.
C'est ma mère qui me l'a dit, et je lui ai promis d'aller le voir quand elle serait morte. J'ai pressé ses mains pour lui assurer que je le ferais. Elle se mourait, et j'étais prêt à lui promettre n'importe quoi. Ne manque pas d'aller le trouver, m'a-t-elle recommandé. Il porte tel prénom et tel nom. Je suis sûr qu'il sera content de te connaître. Auparavant, elle m'avait encore dit « Surtout, ne lui réclame rien, n'exige que notre dû. Ce qu'il me devait ne m'a jamais donné. L'oubli dans lequel il nous a laissés, fais-le lui payer cher, mon enfant. » « Je le ferai, maman. »«
Así lo haré, madre. »
Thank you.
Que nous arrive-t-il, Doña Eduviges?
Elle a secoué la tête comme si elle était tirée d'un rêve.
C'est le cheval de Miguel Páramo, qui galope sur le chemin de la Media Luna.
Il y a donc quelqu'un de vivant à la Media Luna?
Non. Là, il n'y a pas âme qui vive.
Mais alors?
C'est seulement le cheval qui va et vient. Ils étaient inséparables. Il court le chercher partout, et il revient toujours vers cette heure-ci. Le pauvre est sans doute rongé de remords. C'est curieux, quand même les bêtes le savent, quand elles ont commis un crime. Tu ne trouves pas?
Je ne comprends rien. Je n'ai entendu aucun bruit d'aucun cheval.
Ah non?
Non.
Alors c'est encore un tour de mon sixième sens. Un don que Dieu m'a fait. Peut-être une malédiction. Moi seule, c'est tout ce que j'ai souffert à cause de ça.
Elle a gardé le silence pendant un moment, puis elle a rajouté.
Tout a commencé avec Miguel Páramo. Moi seule ai su ce qui s'est passé la nuit de sa mort. J'étais déjà couchée quand j'ai entendu son cheval revenir et filer vers la Media Luna. Ça m'a intriguée parce que Miguel ne revenait jamais à cette heure-là, mais bien après le point du jour. Il allait conter fleurette à son amoureuse dans un bourg appelé Contla, assez loin d'ici. Il partait de bonne heure et rentrait tard. Mais cette nuit-là, il n'est pas revenu. Tu l'entends maintenant? On peut dire qu'il se fait entendre. Il revient.
Je n'entends rien.
Alors ce sont mes marottes. Bon, quand je te disais qu'il n'est pas revenu, ce n'était qu'une façon de parler. Son cheval venait tout juste de passer lorsque j'ai cru entendre frapper à la fenêtre. Va savoir si ça n'a pas été encore un tour de mon imagination. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quelque chose m'a forcé à aller voir qui était là. Et c'était lui, Miguel Páramo. Je n'ai pas été étonnée de le trouver là. Parce qu'il y a eu un temps où il passait les nuits chez moi et couché dans mon lit, avant de rencontrer cette petite qui lui a mis la tête à l'envers. Que s'est-il passé? Lui ai-je demandé. Tu t'es fait conduire?
Non, elle m'aime toujours.
M'a-t-il dit?
La seule chose, c'est que je n'ai pas pu la rejoindre. Impossible de trouver le bourg. Il y avait beaucoup de brouillard ou de fumée ou de je ne sais quoi. Mais de Contla, pas trace. Je dois l'avoir dépassé, d'après mes estimations, et je n'ai rien trouvé. Je suis venu te le dire parce que je sais que toi, tu me comprends. Si j'en parlais aux autres à Comal, ils iraient raconter que je suis fou comme ils l'ont toujours fait.
Fou? Non, Miguel. Mort. Je veux bien le croire. Souviens-toi de ce que l'on t'a dit, que ce cheval te tuerait un jour ou l'autre. Souviens-toi, Miguel Páramo. À moins que tu n'aies encore fait une de tes folies, ça c'est autre chose.
J'ai seulement sauté par-dessus le bout du muret en pierre que mon père a fait dresser là dernièrement. J'ai poussé Colorado à le franchir pour m'épargner le si long détour qu'il faut faire à présent, avant de rejoindre la route. Je sais que je l'ai sauté et que j'ai continué de filer. Mais comme je te le disais, il n'y avait que de la fumée, encore de la fumée et toujours de la fumée.
Demain, ton père va se tordre de douleur. J'ai de la peine pour lui. Maintenant, va-t'en et repose en paix, Miguel. Je te remercie d'être venu me dire adieu. Et j'ai refermé la fenêtre. Ce village est plein d'échos. Il semble avoir été reclus au creux des murs ou sous les pierres. Quand on marche, on a l'impression qu'il vous emboîte le pas. On entend des craquements, des rires très anciens, comme lassés de rire, des voix usées d'avoir trop servi. On entend tout ça. Je crois que un jour viendra où ces bruits s'éteindront.
C'était Damiana Cisneros qui me parlait de la sorte, tandis que nous traversions le village.
Il y a eu un temps où, pendant de nombreuses nuits, j'ai entendu le tintamarre d'une fête. Il m'arrivait là-bas, à la Media Luna. Une fois, je me suis approchée pour regarder les danses, et j'ai vu ce que nous voyons maintenant. Rien. Personne. Des rues aussi désertes qu'à présent. Puis j'ai cessé de l'entendre. Il est vrai que la joie lasse. Aussi n'ai-je pas été surprise qu'ils prennent fin. Oui, ce village est plein d'échos. J'entends aboyer les chiens et... ils ne me font plus peur. J'entends aboyer les chiens et je ne m'en soucie pas. Qu'ils aboient autant qu'ils veulent. Les jours de grand vent, on voit des feuilles emportées par les rafales. Alors qu'ici, comme tu peux le constater, il n'y a pas d'arbres. Il y en a eu à une époque. Sinon, d'où sortiraient-elles toutes ces feuilles? Le plus terrible, c'est quand on entend parler les gens, comme si leur voix sortait de quelques lézards. Elles sont pourtant si claires qu'on les reconnaît. Pas plus tard que tout à l'heure, pendant que j'allais te chercher, j'ai rencontré un convoi funèbre. Je me suis arrêtée pour dire un pater. Je priais quand une femme est venue s'écarter des autres pour venir me souffler. Damiana, prie pour moi. Damiana. Elle a dénoué son châle et j'ai reconnu ma sœur, Sistine. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle a couru se cacher parmi les autres femmes. Ma sœur, Sistine, au cas où tu ne le saurais pas, est morte quand j'avais 12 ans. C'était l'aînée, et nous étions 16. Alors, rends-toi compte, il y a bien longtemps qu'elle n'est plus. Elle est pourtant encore là, à vagabonder dans ce monde. Tu vois, mon petit Juan, il ne faut pas avoir peur si tu entends des échos plus récents.
Ma mère vous a-t-elle averti, vous aussi, que j'allais venir?
Non. À propos, comment va-t-elle?
Elle est morte.
Morte? De quoi?
Je l'ignore. De tristesse. Elle soupirait beaucoup.
Ça, ce n'est pas bon. Chaque soupir est un souffle de vie dans ton santé fait. Alors comme ça, Dolores est morte.
Oui. Vous auriez peut-être pu le savoir.
Pourquoi l'aurais-je su? Il y a des années que je ne sais plus rien.
Mais comment avez-vous fait pour me trouver alors? Damiana, êtes-vous vivante? Dites-le-moi, Damiana.
Je me suis soudain trouvé seul dans les rues vides. Les fenêtres des maisons, ouvertes sur le ciel, laissaient passer des tiges de plantes grimpantes. Les murs empilés ont fait hérisser des pieds montrer leurs briques qui fritaient.
Damiana, Damiana Cisneros, Damiana.
changé dehors. Ma mère me disait qu'à l'arrivée des pluies, tout se remplissait de scintillements et de l'odeur verte des jeunes pousses. Elle me racontait comment montait la marée des nuages, comment ils se précipitaient sur la terre et la transformaient en lui donnant d'autres couleurs. Ma mère, elle qui a vécu son enfance et ses plus belles années dans ce village, n'a pas pu y mourir. Elle m'a envoyé ici à sa place. C'est étrange, Dorothea. Je n'ai pas réussi à voir le ciel. Peut-être lui, au moins, est-il le même que celui qu'elle a connu.
Je n'en sais rien, Juan Preciado. Je n'ai plus levé la tête depuis tant d'années que j'ai oublié le ciel. D'ailleurs, si je l'avais fait, qui aurais-je gagné? Le ciel était si haut et ma vue si basse que je m'estimais déjà heureuse de savoir où se trouvait la terre. De plus, il a perdu pour moi tout intérêt à partir du moment où le père Renteria m'a assuré que je ne connaîtrais jamais le paradis, que je ne le verrais même pas de loin, à cause de mes péchés. Il aurait mieux fait de ne pas me le dire. La vie est déjà assez pénible comme ça. La seule chose qui vous fait mettre un pied devant l'autre, c'est l'espoir qu'en mourant, ils vous porteront quelque part ailleurs. Mais quand on vous ferme une porte et que la seule qui reste ouverte est celle de l'enfer, alors mieux vaut ne pas être né. Le ciel pour moi, Juan Preciado, c'est là où je suis à présent.
Et tu alma, a donde crees que haya ido?
Et ton âme, où crois-tu qu'elle soit à présent?
Elle doit errer sur la terre, comme tant d'autres, courir après les vivants afin qu'ils prient pour elle. Il se peut aussi qu'elle me déteste, pour les mauvais traitements que je lui ai infligés. Mais peu importe à présent, je me suis guérie de ses excès de remords. Elle jetait l'amertume dans le peu que je mangeais, rendait mes nuits intolérables en les emplissant de pensées inquiètes, d'images de damnés et autres choses de ce genre. Quand je me suis assise pour mourir, elle m'a supplié de me lever et de continuer à porter le fardeau de la vie, comme si elle attendait encore le miracle qui me laverait de mes fautes. Je n'ai même pas essayé. Le chemin s'arrête ici, lui ai-je dit. Je n'ai pas la force d'aller plus loin. Et j'ai ouvert la bouche pour qu'elle s'en aille. Elle est partie. J'ai senti tomber dans mes mains le petit filet de sang qui la rattachait à mon cœur.
Quelle place faisons-nous à la mort dans nos vies par Auxilio et Gogo Dance?
Et du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient.
Vivre la mort. Léon Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch. De quoi as-tu besoin ? Telle fut la première idée claire, capable d'être exprimée en paroles, qu'il entendit. De quoi as-tu besoin ? De quoi as-tu besoin ? Se répéta-t-il. De quoi ? Ne pas souffrir. Vivre, répondit-il. Et il se fit de nouveau attentif, son être tendu à tel point que la douleur même ne parvenait pas à le distraire. Vivre ? Comment vivre ? Demanda la voix de l'âme. Oui, vivre comme je vivais avant, agréablement, facilement. Comment vivais-tu agréablement et facilement ? Demanda la voix. Il se mit à passer en revue en imagination les meilleurs instants de son existence agréable. Mais, chose étrange, ces instants prenaient à ses yeux un aspect tout différent de celui qu'ils avaient jadis. Tous, excepté les premiers souvenirs de son enfance. Il y avait eu dans son enfance quelque chose de vraiment beau, qu'il aurait aidé à vivre maintenant, s'il avait pu le ressusciter. Mais celui qui avait vécu cette chose n'existait plus. C'était comme s'il s'était agi d'un autre homme. Et plus les souvenirs d'Ivan Ilitch s'éloignaient de son enfance, plus il se rapprochait du présent, plus les joies qu'il avait vécues lui apparaissaient douteuses et vides. Mais que signifie donc cela ? Pourquoi ? Impossible. Il ne se peut pas que la vie soit si stupide, si vilaine. Et si elle est vraiment vilaine et stupide, pourquoi faut-il mourir, et mourir en souffrant ? Il y a là quelque chose qui ne va pas. Peut-être que je n'ai pas vécu comme j'aurais dû, songeait-il. Cela ne se peut, puisque j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Et il chassait aussitôt, comme inconcevable, l'unique solution de l'énigme de la vie et de la mort.
Toute sa vie, Ivan Ilitch a nié sa mort. Mais voilà qu'elle guette. Impossible de l'ignorer. L'heure d'un retour sur sa vie, quelque chose ne colle pas. Il entrevoit les mensonges, l'hypocrisie, la solitude. Comme une absence à la vie, au monde, à lui-même. Mais c'est trop tard. Rien de ce qu'il n'a vécu ne peut l'aider à faire face à sa mort.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Nous sommes privés de nos morts. En Occident, la mort est bannie, occultée, niée. Elle n'a pas lieu. Elle est le néant. À sa place, une angoisse sourde et diffuse. Et au moment où on rencontre la mort, ça ressemble à ça.
Bonjour à tous, bonjour maître.
Bonjour.
Avec vous, nous parlons des formalités à remplir après le décès d'un proche. Alors c'est une période évidemment très difficile pour la famille qui se trouve souvent désemparée. Et pourtant, il y a beaucoup d'obligations à remplir. Alors qui faut-il contacter ?
La première formalité à effectuer après le décès, c'est faire constater ce décès. Seul un médecin est habilité à établir un certificat de décès. Il faut donc contacter directement un médecin. Si le décès a lieu à l'hôpital, ça se fait automatiquement. Une fois ce décès constaté, on peut déplacer le corps et faire appel à un établissement de pompes funèbres. Les pompes funèbres vont aider la famille à organiser les funérailles de la personne, notamment en les aidant dans la rédaction du faire-part, dans les parutions qui doivent être faites dans les différents journaux, dans les choix d'inhumation, crémation, etc. Les pompes funèbres vont également déclarer à la commune le décès et recevoir un extrait de décès qu'ils remettent. Donc les pompes funèbres remettront ces extraits à la famille. La famille a besoin des différents extraits pour les différentes formalités postérieures à effectuer.
Qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre.
Faire de la place à la mort. Ne pas seulement l'accepter comme événement, mais comme possibilité de tous les instants. Non pas opposé ou contraire, mais partie intégrante de la vie.
La voie du samouraï se trouve dans la mort. On doit se livrer chaque jour à la méditation sur une mort inévitable. Chaque jour, quand le corps et l'esprit sont en paix, on doit méditer sur l'idée d'être déchiré par des flèches, des fusils, des lances et des épées. Enlevé par le déferlement des vagues, projeté au cœur d'un immense feu, frappé par un éclair, secoué à mort par un grand tremblement de terre, précipité du haut de falaises de 30 000 mètres, emporté par une maladie mortelle ou contraint à se faire seppuku à la mort de son maître. Et chaque jour, sans faute, on doit se considérer comme mort. Telle est la substance de la voix du samouraï.
Refuser d'être dépossédé de sa mort, c'est refuser d'être dépossédé de sa vie. Dans les années 80, avec sa bande Os Cangaceros, Andrea Doria pense la vie autrement, en rupture avec la société telle qu'elle se présente alors. Dans une perspective révolutionnaire, ils vont se réapproprier ce dont on voudrait les déposséder, leur vie. En 1985, Andrea apprend qu'elle a un cancer. 5 ans plus tard, après opération, rayons et chimiothérapie, on lui propose un traitement expérimental. N'espérant rien de plus de la médecine, refusant de se soumettre à cette non-vie jusqu'à sa fin, elle décide de prendre sa mort en main. Elle retourne vivre parmi ses amis jusqu'au moment de sa mort qu'ils ont choisi ensemble.
août 1991. J'ai donné du poids à ma vie pour alléger ma mort. Vivre sans risque, c'est choisir le pire, celui de mourir pauvre. Qu'est-ce que le destin, sinon cette ligne de vie, cette perspective déterminée par les refus successifs de ma jeunesse? Reprendre le temps, voler l'argent, inventer des dépenses sociales à ma guise, désirer la richesse, connaître l'aliénation, avec mes amis. C'était ça, ma vie. J'avais fui bien des enfermements. D'abord le travail salarié. En 15 années dehors la loi, j'avais évité la prison, mais pas la maladie. Je n'allais pas abandonner le besoin de faire de ma vie mon expérience pour me protéger d'angoisses qui pouvaient s'avérer mortelles. Perdre ma vie est un risque plus grand que celui de mourir. Perdre la liberté sous le chantage répété d'une mort annoncée est incomparablement plus grave. Le chantage, ici, n'était pas la terreur de l'enfermement, mais celui intérieur d'une dégénérescence progressive et irréversible. Mon évasion pour l'ultime grand jeu de la vie m'a offert un point de vue imprenable à partir duquel j'ai ressaisi ma finalité, renforcée d'une volonté invincible. Mon histoire serait somme toute banale. Se tirer de l'hosto avant le dernier stade n'est pas spécialement original. Elle ne l'est pas. C'est une petite expérience dont j'ai fait tout un flanc. J'allais être dépossédée de ma faim. J'allais donc être dépossédée de ma vie, moi qui l'avais fondée sur un refus, celui de la dépossession. En me réappropriant ma faim, je retrouve ce qui était au commencement, l'intelligence de mon refus.
Est-ce que vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez eu peur de mourir?
Non, je n'ai pas peur de la mort.
Vous y avez pensé?
J'y ai pensé, je l'ai accepté, ça avait dû arriver, enfin, je pense que j'étais prête aussi.
Si Andrea peut penser sa mort ainsi, c'est parce que cette question s'est imposée à elle dès l'instant où elle a choisi de se réapproprier pleinement sa vie, avec tout ce qu'elle contient de mise en jeu.
1987, reprise et détournement, c'est mon style, celui de mes proches. La pensée de la mort, je l'avais rencontrée d'une certaine façon, socialement, dans le risque calculé pris à plusieurs pour ne pas travailler. Car pour moi, la prison, c'est la mort. Le fait de jouer ensemble le risque de la prison est déjà une manière d'apprivoiser la mort.
Ça vaut la peine de mourir. Ça vaut la peine de tuer. Ça vaut la peine d'aller en enfer. Amen.
Cette réflexion, elle ne l'a pas menée seule. C'est à travers ces amitiés que la mort cesse d'être une affaire individuelle pour s'inscrire dans une construction commune de la vie.
Mai 1991. Et mieux encore, au luxe, aux jouissances suprêmes. J'ai organisé ma fin avec mes amis comme une situation que l'on construit. La date de la commune séparation est décidée. Ce point d'accord dans le temps est un repère pour un départ, fin et commencement à la fois. Je serai dans le futur de mes amis, dans leurs orientations communes. Je dis « nous » en parlant d'un temps où je ne serai plus. Voilà de quoi relativiser l'idée de la mort ordinairement admise. Cette date, plus ou moins arbitrairement choisie, il faut la voir comme un seuil de qualité voulu ensemble, en deçà duquel il serait sacrilège de revenir. En décidant du style de ma mort autrement qu'en privé, avec d'autres, je dépasse la seule affirmation d'une liberté individuelle à l'encontre d'un processus de dégradation qui m'échappe du monde, de mon corps, et qu'une volonté à elle seule ne pourrait bouleverser. Ma liberté ? Ni victoire, ni défaite. Je suis sûre de mes amis.
Tu me connais, je suis assez spécial pour de la monnaie. Ne manque ma nié, la scie est pour des billets. Et si t'entendais, seul le crime, babe.
Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go! You sure? Yeah.
Estoy pensando, estoy pensando. A ver, córtale. Sigo pensando. ¿Habías escrito algo?
No.
A ver. A ver.
En México el Día de Muertos tiene un significado.
El Día de Muertos. El Día de Muertos es una fiesta tradicional.
El Día de los Muertos es una fiesta tradicional celebrada el 2 de noviembre en México, dont le but est principal est de maintenir vivante la mémoire des proches morts précédemment. La célébration del Día de los Muertos possède ses origines préhispaniques dans les cultures du centre et du sud du Mexique, comme les Mayas et les Aztèques pour les plus connus. Avec l'arrivée des Espagnols aux Amériques, les anciens rituels autochtones se sont vus transformés par la religion catholique. Cependant, encore aujourd'hui, la célébration dite Día de los Muertos se poursuit avec beaucoup des caractéristiques indigènes.
La célébration. La célébration del Día de Muertos en
quant à la manière de célébrer, la célébration del Día de los Muertos au Mexique contient des éléments très particuliers en accord avec la région dans laquelle on peut la rencontrer. Au centre du Mexique, par exemple, les personnes vont au cimetière passer la nuit sur les tombes de leurs morts en mangeant, en buvant et en festoyant, en fêtant. Les gens ont aussi l'habitude d'élever des autels traditionnels chez eux. Dans certaines régions du sud, les familles invitant leurs morts à une célébration qui dure toute la nuit pour ensuite leur dire au revoir et leur souhaiter un bon retour au lieu où ils reposent. À d'autres endroits encore, on élève un autel sur les tombes des morts, les femmes pleurant tandis que se contemple le cierge en priant pour le retour de leurs morts. On fait alors la fête au retour des morts dans le monde des vivants. En général, le Día de los Muertos, c'est surtout une fête de goût très vivante, pleine de couleurs, de larmes, de goût, d'odeurs, de parfums, où l'on boit, on mange, où l'on fête le retour des morts dans le monde des vivants.
La ofrenda de los muertos. La ofrenda de muertos es un altar que se levanta en honor a los difuntos.
L'offrande aux morts est donc un autel qui s'élève à l'honneur des défunts, des familles, un mot qui s'orne avec différents éléments qui ont une signification. En général, dans ces éléments, on a l'habitude d'y trouver la nourriture favorite du défunt, les plats traditionnels de la cuisine mexicaine, des têtes de mort au sucre, au chocolat, pâte d'amande, le portrait du mort et différents symboles religieux. Aussi, on peut parler du traditionnel pan de muertos, qu'on trouve partout, un pain rond sucré couvert de billes de sucre. Les bougies illuminent les chemins des morts, notamment des fleurs qui ressemblent à des œillets d'Inde, qui guident le mort depuis le cimetière jusqu'aux offrandes, et du copal, une résine aromatique qui se brûle afin d'indiquer par son odeur où se trouve l'offrande. Ils peuvent aussi mettre des boissons comme de l'eau, du café, du chocolat et beaucoup d'alcool, des cigarettes aussi. L'offrande est aussi décorée de cotillons de papier de soie, aux images d'icônes qui montrent des figures traditionnelles del Día de los Muertos comme la mort ou la Catrina.
La fiesta del Día de Muertos nos habla un poco de la significación que tiene la muerte en relación a la vida en la cultura mexicana y que a sobrevivido
la fête
a pesar de la
Día de los Muertos nous raconte un peu la signification
la
de la mort dans la culture mexicaine.
La religion catholique,
de fait, elle a survécu à la colonisation, la conquête, l'imposition de la religion catholique sur la tradition aztèque et préhispanique en général, surtout.
Y en ella podemos ver cómo esta cultura entiende la muerte como parte de la vida y la festeja con una celebración.
Et on peut voir que c'est très culturel qu'on prenne la mort comme faisant partie intégrante de la vie, que l'on fête dans une célébration annuelle au cours de laquelle les défunts reviennent partager la vie avec les vivants et forment ensemble un sorte de même cycle.
De rénovation.
Ceci dans une sorte de renaissance. Et comme dans n'importe quelle fête, le temps s'arrête et accouche d'une sorte de nouvelle temporalité.
Et c'est une espèce de. Autre temps.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque que vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué
que triunfe en el amor y que nunca he llorado.
Pour parler de la fête des morts au Mexique, j'ai donc choisi un texte écrit par Georges Lapierre en 2003 lors d'une de ses balades dans l'état de Oaxaca. Et là, il s'est arrêté dans un village qui s'appelle El Xochitlán de Flores Magón. Je l'ai trouvé du coup sur le site de la Voix du Jaguar. Le texte s'appelle De l'état et de la tradition. On va lire juste un petit bout du chapitre 1. Chapitre 1, où il est question de la fête des morts, de Ricardo Flores Magón, de l'Institut linguistique d'été, du revenant et de la constellation del Huarache. Le 2 novembre 2003, El Oxochitlán de Flores Magón, Sierra Mazateca Alta, État de Oaxaca. La fête des morts, nous sommes avec nos amis Mazatecos, de la constellation del Huarache, la nuit tombe, et la montagne qui encercle le village de Flores Magón retentit des cris courts et espacés. Des hurlements brefs, des huehuentones, des vilains pas beaux, des revenants. Ce sont les morts qui viennent visiter les vivants. L'écho de leurs cris lugubres, parfois lointains, parfois plus proches, trouble la profondeur tranquille des nuits. Plusieurs bandes hantent ainsi la montagne. À leur appel, la porte des chozas s'ouvre et ceux qui reviennent d'un si lointain voyage, les guerriers des songes, danse au son du violon et de la guitare devant l'autel du foyer. Les enfants cachés derrière les jambes de leur mère pointent un visage attentif à l'extrême, entre le plaisir de jouer avec leur peur et la fascination de la surprise. Il s'agit de goûter cet instant extraordinaire de l'éruption de la poésie, de l'éruption de la musique, de la danse et des masques, de l'éruption des ancêtres. Ces vilains pas beaux dans la pièce commune. Déjà, le tambour marque le rythme. Le violon s'élance vers ses hauteurs lancinantes et la guitare accompagne la voix du chanteur. Et les masques, imperturbables, dansent. Ils explorent au rythme de leurs pieds sur la terre battue le souvenir tenace d'une simple et obsédante idée. Celle de la joie et de l'allégresse, celle de l'ivresse. Mais leurs traits restent à jamais figés dans ce qui fut. L'hôte offre alors au danseur une petite bouteille d'alcool de canne coiffée d'un petit verre « para echar un trago » pour boire un coup. Et le verre circule entre les masques et les musiciens. Le reste de l'alcool est ensuite versé dans une grande bouteille et emporté par les danseurs. Parfois, l'hôtesse offre une orange prise parmi les offrandes de l'hôtel consacrées aux morts. Puis la bande repart dans la nuit et se perd dans le labyrinthe des sentiers qui parcourt la montagne dans tous les sens pour ressortir de la brume un peu plus tard devant une autre cabane. Et los valientes del sueño cruzan las nubes, atravesan montañas de una peña a otra peña, de una piedra a otra piedra, de un sueño dentro de otro sueño. La bande de Sergio et son frère Joel gardent encore les masques en bois qu'ils sculptent eux-mêmes et qui représentent les traits grossièrement taillés de quelques défunts habitants du village. Maintenant, la plupart des autres bandes portent des masques de Halloween qu'ils ont achetés dans le commerce et ils hantent la montagne avec une radiocassette sur l'épaule ou sous le bras. Pourtant, l'esprit de la fête est toujours là, intact, et la rencontre de plusieurs bandes dans une même maison est surréaliste, avec des déguisements de prêtres, de diables, de moines, de Frankenstein, de morts vivants, de vieux paysans mazatèques très figés par la mort, de paysannes aussi, dont le rôle est toujours tenu par de jeunes hommes. Et tout ce bon monde est emporté comme malgré lui dans une faribole endiablée.
Extrañe tanto el sol de tu mirada, ni es que me falte. falta el tierno roce de tu piel. Sencillamente es que me canso de hacer nada y entonces tiendo a recordar cosas de ayer. Mas no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció nublado y el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental. De tus besos y hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos. Hoy no hubo sol, por eso es que estoy así. Y no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que amaneció nublado y el cielo gris siempre me pone el corazón